Bonjour.
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 On a évoqué brièvement, on a vraiment survolé l'impact que le numérique a eu sur le monde des arts. On a évoqué déjà un peu les intelligences artificielles, les IA, mais on va approfondir ce sujet parce que c'est vraiment un sujet, là c'est encore une nouvelle révolution, une disruption comme on dit. Et ça n'est que la quantième, Yann-Mine.
Là, on frôle, je dirais certainement, le million de disruptions depuis l'aube de l'humanité. Et ce que je dis souvent, ce que nous sommes en train de vivre, les IA ne sont que la énième disruption de l'évolution négantropique du vivant. Je pourrais remonter longtemps avant. Moi, je dirais, la première grande disruption dans l'histoire de l'humanité, c'est moins 50 000 ans. C'est le moment où l'humain s'entoure d'un cyberespace et de métavers. C'est d'ailleurs les peintures des grottes pariétales. C'est l'émergence d'un espace informationnel collectif visible et mesurable dans l'histoire de l'humanité. L'humain s'entoure d'images. Il s'entoure alors il y avait de la musique, il y avait du son, il y avait tout ce qu'on a actuellement.
Donc là on parle des disruptions intellectuelles, enfin sociales, parce que
c'est toujours un mélange.
Est-ce que le feu est pas une disruption?
Absolument. Mais je reviens pas jusque là. Je prends celle qui nous concerne le plus. L'information.
Ça concerne la noosphère, à savoir l'ensemble de la pensée humaine.
L'espace informationnel, c'est une énorme disruption qui se produit à ce moment-là et qui caractérise le fait surtout que l'humain adore se raconter des histoires. C'est-à-dire, d'un point de vue cybernétique, ce qui caractérise l'humain, c'est le traitement de l'information à un niveau collectif et individuel. Mais c'est aussi, nous sommes, et ça c'est moi qui pointe le doigt dessus, nous sommes la seule espèce, pour l'instant connue, qui se raconte des histoires au coin du feu. Les histoires jouent un rôle très très important, la construction de métavers joue un rôle très très important dans notre évolution, dans notre société, dans notre économie. C'est une source aussi de pollution catastrophique, tout ce qui est le système de réseau télévisuel. Et alors donc, on va avoir des successions de disruptions, mais qui s'étagent sur des millénaires, ensuite sur des centaines d'années. Je ne vais pas les faire toutes parce qu'on n'a pas assez d'une émission, mais je vais souvent citer celle de Robin des Bois. Je cite souvent celle de Robin des Bois, qu'on n'imagine pas. Contre qui se bat Robin des Bois? En réalité, le roi d'Angleterre, l'Angleterre a un très très fort retard en fabrication de tissage. Ils importent énormément de tissage. Donc le roi d'Angleterre demande au shérif de raser des pans entiers de forêt pour mettre des pâturages, pour favoriser l'industrie du tissage. Et il met à la rue les forestiers qui du coup se rebellent. Et Robin des Bois, c'est la révolte des forestiers.
C'était donc ça.
Les mêmes qui vont se faire disrupter 5 siècles plus tard par les mêmes tisserands qui se retrouvent disruptés par l'arrivée des manufactures et qui vont dégager. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se retrouver à la rue par des disruptions qui sont soit économiques, soit capitalistes. Et on va vivre tout un tas de disruptions. Alors moi, on va sauter toutes les disruptions.
Passer les étapes,
ouais. Une qui est importante quand même, que je cite, c'est l'invention de la perspective. La perspective permet à la Renaissance d'ouvrir des fenêtres dans les murs. C'est-à-dire qu'on crée des métavers et ils vont passer leur vie à la Renaissance à ouvrir des fenêtres.
J'avais jamais vu les fenêtres
dans les toits, sur les plafonds, c'est un peu partout. Et puis on va sauter, on va arriver à ma vie à moi. C'est-à-dire que moi, je vais vivre la disruption, comme je disais tout à l'heure, de la vidéo, l'arrivée de la vidéo qui met à la rue les cadreurs 16 mm. C'est-à-dire que les grands réalisateurs s'en foutent complètement de l'arrivée de la vidéo. Mais il y a tout un tas de corps de métiers qui se trouvent disruptés. Je vais citer aussi quand même, je vais y revenir parce qu'elle est très importante, c'est les pompiers, les peintres pompiers qu'on cite beaucoup par rapport aux IA.
À l'art pompier, oui.
À l'art pompier. Alors il faut se resituer, c'est-à-dire c'est pas la figuration réaliste qui a été disruptée. C'est une source de revenus très particulière qu'avaient ce qu'on appelait les peintres pompiers. Pourquoi on les appelait les peintres pompiers? Parce qu'ils faisaient des portraits réalistes et en général de gens en uniforme. Et c'est pour ça qu'on les appelait les peintres pompiers, parce qu'il n'existait pas de technique de reproduction réaliste et donc il y avait une spécialisation, une source de revenus importante pour les artistes à l'époque qui était la peinture, ce qu'on appelle maintenant la peinture pompier, qui a été disruptée par l'apparition de la photo. Et là récemment on en a eu toute une série, je vais les passer rapidement. Donc il y a eu la vidéo, il y a eu évidemment l'arrivée des outils numériques, c'est-à-dire Photoshop, etc., les palettes graphiques. Juste après, c'est le numérique, l'Internet, évidemment.
Oui,
tous les réseaux numériques, l'Internet, le fait de diffuser. Alors, va émerger à ce moment-là une disruption énorme que peu de gens connaissent, qu'on appelle l'empowerment créatif. C'est Niels Hazel-Simonov, le directeur du Cube, qui explique ça. L'empowerment créatif, c'est que des milliards de jeunes dans le monde se mettent à faire de l'art. Il y a un changement. On n'est plus seulement consommateur d'art, on est fabricant d'art et ils vont se mettre à faire des films, des vidéos en piratant les outils et en les diffusant sur le réseau Internet. Et là, dans la succession, les plus récemment, c'est les crypto-monnaies. Hein, qui est une énorme, c'est l'argent. L'argent se retrouve disrupté d'une façon extraordinaire. L'argent étant d'un point de vue mémétique une entité vivante, faut le regarder comme une entité vivante, et qui vient de s'affranchir de la tutelle, comme le voulaient les cypherpunks, des banques centrales. Et de là arrivent les NFT.
Qu'est-ce que c'est, NFT?
Les NFT, non-fungible token, en fait, ça disrupte les notaires. C'est pas tellement les artistes que ça disrupte, c'est tous les corps de métier de type notarial, huissier, etc., puisque ce sont des contrats qui sont validés informatiquement par des réseaux numériques et qui sont plus fiables.
C'est un titre de propriété, en fait, c'est ça?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est un contrat.
Ça concerne les œuvres d'art, mais pas seulement, en fait. On pourrait avoir des NFT sur n'importe quoi.
On cite souvent cette joueuse de tennis ukrainienne qui a mis en NFT son avant-bras.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est un contrat qu'il y a sur l'avant-bras et elle vend en NFT le droit d'écrire ce qu'on veut, sauf des trucs racistes, etc., sur son avant-bras. Et comme son avant-bras est filmé en permanence, ça, c'est une forme de sponsoring. Et moi, j'ai mis, par exemple, mes romans, mes nouvelles en NFT. C'est-à-dire, on peut acheter un roman en NFT. C'est juste une validation. C'est-à-dire que en réalité, la très grande majorité des NFT se négocient entre un centime de dollar et 10 dollars.
Oui.
Hein, mais moi, par exemple, par rapport aux IA, aux images que je fais en IA, quand j'ai une image importante que je vais commencer à diffuser ou intégrer quelque part dans un dispositif, j'en fais une NFT. Comme ça, je peux, ça me rassure, c'est purement psychologique, hein. Ça me rassure personnellement, je peux dire oui, mais moi, cette image-là, je l'ai faite tel jour à telle date, j'ai le NFT de cette image-là. Je ne peux rien gagner, ni contre les majeures compagnies. Il faut savoir que les majeures compagnies gardent les droits sur les images qui sont générées avec leurs ordinateurs, avec leurs logiciels, pardon. Mais ça fait rien, c'est un écosystème, c'est toute une machinerie. Donc la disruption, c'est le NFT, et là, on vient de vivre, je pense, la plus grande disruption de l'histoire de l'humanité, parce que ça concerne pas que les artistes, c'est l'émergence d'IA qui ne sont pas encore ce qu'on appelle les AGI, Artificial General Intelligence. C'est-à-dire, elles sont très cons, elles sont très loin de l'intelligence.
Il faut vraiment qu'il y ait des humains
derrière. Elles sont très loin de la capacité d'intelligence de n'importe quel organisme, ne serait-ce même qu'une fourmi. Mais par contre, c'est un outil extrêmement puissant. C'est la machine à calculer puissance 10 000 et c'est un outil qui nous amplifie au niveau cognitivement de façon radicale dans tous les corps de métier de l'humanité. Il n'y a pas que les artistes qui sont en train de se... Alors, dernier point sur lequel j'insiste souvent, c'est ça ne disrupte pas les artistes. Il en faudra beaucoup plus pour nous disrupter radicalement. Mais ce qui est disrupté, ce sont des sources de revenus.
Ah oui.
Hein, c'est-à-dire qu'elles ont quand même plagié, on en abordera, je pense, largement le fond graphique et en ne se souciant pas, pour des raisons d'ailleurs historiques, des copyrights, puisque au départ c'était des outils de recherche, hein, c'était le champ scientifique. Mais ce qu'elles disruptent, ce sont des secteurs de revenus du milieu artistique.
Des modèles économiques, on va dire.
Des modèles économiques, des sources de revenus, comme les peintres-pompiers. Les artistes qui vont perdre des sources de revenus, comme par exemple les refs, l'illustration, pour l'industrie du jeu vidéo, pour l'industrie de la publicité.
Parce que ce sont les IA qui les remplaceront.
Un directeur artistique peut ne pas engager un refman ou un dessinateur pour demander à une IA de faire une série de propositions graphiques pour tel ou tel projet. Et ce n'est qu'après qui va faire intervenir un graphiste spécialisé qui maîtrise les IA, mais aussi les techniques de graphisme pour valider, formaliser dans le secteur commercial les choses qu'il aura déjà esquissées. Alors qu'avant, je l'ai vécu très concrètement, là, récemment, à travers une grosse société qui nous employait, il y a des gens qui étaient salariés à l'année pour faire des refs.
Des refs,
c'est des esquisses rapides donner des intentions graphiques sur des projets d'événements. Des projets événementiels, par exemple. Tu crées un gigantesque parc d'attractions, donc c'est des sommes énormes. On est vraiment dans l'industrie, là.
Donc, enfin, une sorte de storyboard parc d'attractions.
Des storyboards pour vendre des concepts de parc d'attractions. Et il faut énormément de flexibilité, puisque le client dit « Ah ben non, ça, j'aime pas », etc., etc. Et donc, l'équipe de dessinateurs passe son temps à travailler, son salarié, mensuellement, pour produire du dessin en permanence. Et là, avec les IA, tu peux virer littéralement 5, 6, 7 dessinateurs à plein temps pour les remplacer par quelqu'un qui est juste une personne. Ça va très vite. C'est-à-dire que tu as une force de proposition rapide en termes de graphisme des IA que n'a pas un graphiste.
Kellen, comment est-ce que ça marche? À quel moment l'humain intervient et quelle machine il peut utiliser pour faire de l'art avec une IA?
Bon, c'est assez simple, hein. Effectivement, Midjourney sur un ordinateur.
Midjourney, logiciel plutôt branché image, enfin uniquement image d'ailleurs, c'est ça.
Alors, c'est en train de changer. Ah, hein, oui. Il s'attaque à l'animation un petit peu. Il évolue, il apprend bien. IA. Il y a d'autres applications. Il y a Kyber, avec lequel je fais des animations, et Muber, avec lequel je fais du son.
Donc, qu'est-ce qu'on fait,
alors ? Je crée des musiques. Ouais. Voilà. C'est toujours des systèmes de prompt. Hein.
Donc, on passe commande, c'est ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit une phrase entière ou juste des mots-clés ?
On écrit... Alors, moi, je pense que chacun... Moi, je suis toujours dans les recherches. Hein. Pour l'instant, j'écris des phrases ou des mots-clés, ça dépend. Où j'ajoute des couleurs, des choses comme ça, bronze, orange, pour donner une direction sur l'ambiance. Après, des mots-clés, effectivement, cyberpunk ou je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être... illustration.
Oui, puis tu as aussi les codes spécifiques qui disent Ninji, par exemple, qui veut dire fais-moi un rendu de type manga.
Ah oui, on peut faire ça.
Ah oui, on peut faire ça. C'est quand même très orienté. Voilà, c'est quand même très, très orienté.
3-2.4, et ça va faire une image de 3 sur 4.
Ah aussi, oui, la dimension aussi, bien sûr. Ouais.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Et puis, franchement, Midjourney, là, quand même, on peut vraiment... aller très 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 loin, parce qu'il vous propose au début 4 images.
Ah oui, c'est ce que j'avais demandé, combien elle fait de propositions ?
Elle fait une proposition de 4 images, mais c'est la première proposition.
Oui,
hein.
On refait,
la recherche, elle prend un petit peu de temps quand même.
On change un peu les mots-clés, etc.
On ne peut pas changer les mots-clés. Il ne faut pas changer les mots-clés.
D'accord. On garde les mêmes mots-clés, mais on redemande à l'IA de retravailler.
On redemande à l'image, en fait, on fait 4 propositions. Donc, soit s'il y en a une qui est parfaite, vous l'upscalez. Sinon, vous demandez des versions et vous poussez la machine un petit peu plus loin à chaque fois. Ensuite, vous pouvez l'upscaler s'il y en a une qui vous plaît.
C'est quoi la télécharger
C'est quoi l'upscaler ?
L'agrandir. Pour regarder les détails, c'est important.
C'est des images toutes petites. Ce que fabrique l'IA, c'est des images de très basse définition. D'accord. Ça va évoluer, mais donc il y a un second travail. Il y a un double travail. Tu dois d'abord elle te fait des propositions en vignettes qui sont minuscules, et ensuite tu lui dis, cette vignette-là m'intéresse, tu m'en fais une version définitive qui est un upscale, donc un agrandissement, mais qui est un agrandissement minuscule aussi, qui fait entre 1600 et 1024 de taille en pixels. Ouais. Et ce n'est qu'après, mais avec un autre logiciel, qu'on va faire un autre upscale, parfois 6 fois, pour qu'elle ait la taille d'être exposée dans une galerie.
Ah oui, mais sinon ça permet quand même de voir les détails, le fait qu'elle s'agrandisse.
Oui, alors c'est un entraînement, hein, parce qu'il faut aller vite aussi, puis il faut avoir l'œil, et puis choisir. On peut choisir les 4, hein, mais je vais assez rapidement là-dessus. On pouvait les pousser plus loin avant. Aujourd'hui, ils ont mis c'est normal parce que j'imagine que tout le monde les poussait le plus possible. Et donc, aujourd'hui, on les pousse moins. Mais en revanche, on peut les agrandir en largeur, en hauteur. Enfin, on a beaucoup de liberté.
Mmh. Et fabriquer un métavers, c'est pas encore faisable. Il n'y a pas des IA qui font tout un métavers avec quelques commandes.
C'est
ça va venir.
Ça va venir.
Ils sont en train de travailler dessus. C'est encore très très complexe, mais vu la vitesse à laquelle ça évolue, moi je pense qu'un univers 3D temps réel, donc similaire à un métavers, c'est dans moins de 2 ans qu'on va commencer à voir les premiers émerger.
Donc à la place de raconter ses rêves de la nuit sur un petit carnet, on pourra dire à l'IA, bon voilà, j'ai rêvé ça.
Exactement, c'est génial. C'est un truc que j'explique souvent. C'est des majeures compagnies, hein. C'est-à-dire c'est des trucs qui sont issus de la grosse industrie capitaliste. Hein. Ce n'est pas des mecs tout seuls dans leur coin, artisans de l'informatique qui développent ces choses-là. Il faut forcément une très grosse structure derrière, à la fois avoir accès à des sources de recherche de très haut niveau et pareil, des sources de financement qui sont du niveau capitalistes. Donc, ce qui les intéresse pour l'instant en termes modèle économique, c'est pas les artistes, c'est le grand public. La cible de ces outils-là, c'est essentiellement le grand public. C'est de répondre, c'est là qu'arrive l'argent, c'est-à-dire que des millions de gens sont prêts à payer 10 ou 30 euros par mois pour pouvoir générer facilement et rapidement leur propre storytelling, leurs propres histoires.
Les gens sont payés sans problème.
Après,
on n'est plus dans l'ère du tout gratuit et je te donne mes données.
Même dès le départ, tu avais du gratuit. Alors, tu as toujours, comment elle s'appelle, j'oublie, chaque fois j'oublie son nom.
Sable.
Sable Diffusion a des versions gratuites, mais dès que tu commences à bosser sérieusement, même Sable Diffusion, tu as des systèmes économiques et le prix varie entre 10 et 30 euros, voire 50 euros selon les modèles.
Mais les gens sont d'accord de payer.
Parce que c'est fascinant, c'est-à-dire que c'est le grand public, c'est-à-dire qu'effectivement les artistes s'en emparent, mais la manne économique pour ces boîtes-là, c'est effectivement cette fascination. Mais c'est pas une fascination, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié notre rôle d'artiste. Hein. Pour gagner de l'argent, on finit par se vendre au capital, il faut survivre. Mais notre rôle d'artiste, c'est, nous sommes les héritiers des premiers chamans. Hein. Nous sommes les héritiers des premiers conteurs. Et notre rôle, c'est de faire voyager. Nous sommes les interfaces qui permettent aux humains de voyager dans les espaces littéraires.
Les humains sont quand même présents. Même si vous utilisez les intelligences artificielles, vous restez présents. On n'est pas encore à l'intelligence artificielle autonome qui crée son œuvre d'art toute
absolument
seule, ça,
mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes là, les artistes, mais là, le grand public, c'est surtout un outil qui permet au grand public d'aller générer son propre imaginaire, et cela massivement. Alors évidemment, l'artiste intervient sur le regard, c'est-à-dire que tu as 1000 versions de La Guerre des Étoiles maintenant qui sort sur les... Quand tu regardes les prompts, tu vois une profusion de bimbo à gros seins, hyper sexy, tu vois une profusion de versions du Seigneur des Anneaux, d'elfes, de La Guerre des Étoiles. Et tant mieux, ça c'est le grand public. Le grand public, il y a aussi les autoportraits, hein, on se transforme, on se fait des autoportraits en elfes, en guerriers, tu as une profusion hallucinante de femmes guerrières avec des super armes incroyables. Et la différence intervient à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce qui fait un artiste, ce qui fait un auteur, c'est son regard, sa culture, sa façon de voir les choses, et on ne va pas, selon que tu es un artiste ou le grand public, on va dire, on ne va pas générer le même type d'image. C'est-à-dire qu'on va, et je dis souvent, en fait, on va essayer d'abord de dompter, c'est-à-dire avec les IA, pour l'instant, elles ne font pas ce que tu leur demandes, c'est-à-dire tu es obligé de négocier
elles
avec elles. Donc, il faut apprendre à dompter les IA.
Prompter, et
le plus souvent,
dompter.
Les Calonnes va sûrement me conforter dans cette idée-là, mais moi, j'explique, en fait, en général, il ne faut même pas essayer de les dompter, il faut se laisser guider par l'IA. C'est-à-dire, c'est de la sérendipité. L'IA va te proposer des choses étonnantes et c'est là qu'il ne faut pas rester accroché à sa vision d'origine. Il faut la suivre là où elle va. Parce qu'elle va aller puiser dans les profondeurs de l'inconscient collectif.
Moi, j'accapare en fait. Hein. Je hack et je profite de tous ces outils et j'essaye de récupérer en fait ce que moi je veux en faire parce qu'elle ne se laisse pas faire. Hein. Ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez envie de sortir, ça ne vous satisfait pas souvent.
Ah ben il y a un travail,
moi,
sinon il n'y a plus d'artistes.
Oui, mais je veux dire, je ne vais pas me contenter de... Déjà, je vais récupérer mes droits dans le simple fait de récupérer l'image et de retravailler dessus. Je mixe tout ça, hein. Je travaille ensuite sur Photoshop, parfois j'y mets du son.
Oui, c'est ça,
propre.
On peut retravailler, même une fois que l'image est générée par l'IA, on peut encore la retravailler, c'est pas interdit, hein, au contraire.
Il faut absolument, et elle est pas parfaite, et on en est toujours quand même encore à des mains à 6 doigts, hein,
et
des pieds aussi, et voilà. En même temps, c'est intéressant, j'aime bien est-ce que justement d'utiliser les intelligences artificielles ne te donne pas plus de pouvoir et symboliquement c'est représenté par les 6 doigts de la main ou les 6 doigts des pieds.
Elles te font des propositions surréalistes très intéressantes.
Oui, c'est ça, il faut les accepter. Ouais. Elles sont poétiques finalement, ces IA.
Mais c'est très poétique, ça peut être très poétique effectivement.
Alors, la poésie étant surtout dans notre regard.
Hein, c'est ça,
accidents graphiques, mais qui sont souvent extrêmement pertinents pour qui sait les regarder. Parce qu'ils sont pertinents pour une raison très précise, c'est que ce qui est important à saisir, c'est que ça reste du big data, ça reste du deep learning, ça reste des machines. Ce sont des machines, ce sont des réseaux neuromimétiques, mais on est en train de les nourrir avec tout l'inconscient collectif graphique de l'humanité.
C'est ça.
Et donc là, inévitablement, ce que la disruption que font les IA, c'est-à-dire qu'elles te fournissent le résultat fini immédiat. Et il y a une partie mystérieuse dans le travail d'artiste qu'on appelle la techné, c'est-à-dire c'est cet accompagnement qu'on fait avec l'œuvre. C'est-à-dire qu'on commence à dessiner, on commence à peindre. Or, c'est le problème de la techné, c'est notre problème d'artiste, c'est de faire exister dans le monde réel quelque chose qui appartient à l'immatérialité de la pensée. Or, dès qu'on commence à travailler en tant qu'artiste, on s'aperçoit que le réel ne se laisse pas faire.
C'est ça.
Et qu'il va falloir se battre contre le réel. Et petit à petit, l'artiste développe une connaissance empirique, métaphysique de comment fonctionne le réel, qui reste quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et cette connaissance est intransmissible. Elle ne s'acquiert que par l'expérience, que par le travail. Et toute la vie d'artiste, les artistes sont souvent des gens qui sont habités par cette compréhension qu'ils ont eue par leur travail de la technique, de ce qu'est la réalité. Et cette chose est intransmissible et n'existe pas avec les intelligences artificielles. Elles nous fournissent directement l'œuvre terminée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont été puisées justement dans toute l'histoire de l'humanité et vont extraire, je dirais accidentellement, les parts. Parce que le public les voit la techné. C'est-à-dire quand vous regardez une œuvre d'art majeur, vous voyez la part qui appartient, le mix qui appartient à la fois à l'artiste et à cette métaphysique étrange de la réalité. Elle est présente dans les grandes œuvres. Et nous les percevons de façon subconsciente. Et cette chose-là, métaphysique, mystérieuse, paradoxalement, a été stockée dans les datasets des IA. Et donc, du coup, quand vous travaillez avec les IA et que vous avez une carrière d'artiste derrière, vous savez reconnaître dans les images qu'elles sont en train de présenter ce fantôme étrange, immatériel de la techné qui émerge accidentellement dans les prompts que sortent les IA.
Sauf que pour en revenir au modèle économique, ça pose quand même des problèmes de droit parce que ces IA puisent, les data, c'est des œuvres qui appartiennent à des gens, donc il y a des questions de droit d'auteur quand même.
J'ai essayé de réagir rapidement, mais ce qu'il faut penser déjà, c'est que nous, en tant qu'artistes, nous puisons déjà dans les œuvres des autres.
Oui, c'est vrai,
l'art et la nature collective, et on s'inspire des œuvres des tas d'artistes. Frazetta est quelqu'un qui a marqué toute une génération de graphistes du fantastique, par exemple.
Giger.
Alors Giger, c'est l'exemple typique, le créateur du monstre d'Alien. Tu as des Giger partout dans les tatouages, etc. Et en fait, ce que fait l'IA, c'est une réinterprétation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de ressortir l'œuvre telle que. Elle s'est nourrie. Alors donc, c'est une nouvelle question du droit d'auteur. C'est-à-dire, mais ça pose des problèmes très complexe parce que est-ce qu'on peut légiférer sur l'inspiration, sur le style ? Et on ne peut pas, a priori, déposer du style parce qu'il n'y a pas que les IA qui sont mal. Si on commence à déposer un style façon Picasso, façon Möbius est omniprésent partout. Donc ça pose un problème. L'autre problème, c'est la même chose que pour la musique. Je pense qu'on se dirige très, très clairement vers, d'abord, la possibilité des artistes de s'extraire des bases de données. Donc ça a déjà commencé, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils puissent s'extraire des bases de données, des datasets, elles ont déjà appris.
Mais oui, c'est ça.
C'est-à-dire les équilibres des réseaux de neurones, les poids des réseaux de neurones ont déjà été faits. Donc elles ont déjà appris le style de tel ou tel artiste. C'est comme pour la SDRM, c'est-à-dire qu'il va y avoir des taxes très certainement qui vont être redistribuées aux graphistes, aux plasticiens, comme en musique, on redistribue.
Ah oui.
Simplement, ce qui va nous arriver, c'est malheureusement, comme pour les taxes musicales, ce seront les grands, ceux qui font déjà beaucoup d'argent, qui vont récupérer la majorité des financements.
Ouais.
Donc j'ai très peur que ce combat-là soit un combat perdu d'avance, en tout cas pour les artistes comme moi qui sont en marge du système.
Et à propos de marge, dans les data, il manquera toujours des gens qui sont passés à côté, qui n'ont pas mis leurs œuvres sur Internet, dans le vaste cloud mondial. Il manquera de l'humanité quand même.
Ah oui, alors moi, par contre, c'est ma frustration. C'est quand j'ai commencé à chercher si j'étais dans les datasets, j'y étais pas.
Oh,
et je me suis dit,
ah
merde, ils ont pris tous les autres sauf moi, quoi. Donc, ça peut aussi agir à l'envers sur l'amour propre, tu vois.
Oui, puis même,
je suis pas assez important pour être présent dans les datasets.
Ça sera qu'une vision partielle de la réalité, du coup.
Oui, absolument, mais ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute que de toute façon, les IA ne.
Alors, donc ça va renforcer le courant, les courants majeurs en fait.
Toujours.
Mais
ça a toujours été le cas
c'est
dans l'histoire de l'art.
Oui, c'est vrai.
Dans l'histoire de l'art.
Regarde toutes les villes, tous les centres commerciaux, tout. Enfin,
oui.
Tout se ressemble. Tu peux aller au fin fond de la Bretagne.
T'as déjà une esthétique du centre commercial.
Mais donc c'est pas forcément très satisfaisant. Pour
non,
des artistes
justement,
comme vous,
mais c'est une manière aussi de pouvoir exister dans ce monde lénifiant là, avec une pensée unique,
oui, il faut lutter.
Une esthétique unique. Enfin, c'est que tu ailles à Tokyo ou ici, tu vas trouver les mêmes magasins, les mêmes enseignes, les mêmes vêtements, même musique, les mêmes.
Et c'est en ça que notre rôle d'artiste est toujours le même. C'est justement d'être en dehors de ces espèces d'archétypes, etc. Avec le défaut, d'ailleurs, qui est clair. Moi, ce que je dis en permanence, le danger c'est bien sûr effectivement ce pillage des œuvres d'artistes, mais le vrai danger le plus puissant, c'est le fait que ces intelligences artificielles sont contrôlées par des majeures compagnies.
Aussi, ouais.
C'est-à-dire que ça, c'est le plus grave. C'est-à-dire qu'on a des gens, des petits cons, et je mâche mes mots, de cadres supérieurs programmeurs au sein de ces entreprises-là, qui décident de façon totalement décomplexée, qui décident de ce que nous pouvons lire, voir, entendre, écouter, hein, avec leurs outils. Et tout le monde dit amen. C'est-à-dire ce qui est incroyable, après autant d'années à se battre pour qu'on soit plus libre, qu'on ait plus d'espace, au moins d'espace spirituel, on se retrouve entouré d'organismes, d'institutions privées, en plus, qui sont même pas, qui n'ont même pas de statut légal, populaire, oui. Élus, ce ne sont pas des gens élus. C'est des boîtes privées qui sont en train de formater tout notre champ esthétique, culturel, etc., à l'échelle planétaire. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est le truc le plus dramatique qu'on est en train de
alors,
vivre.
Alors, pour moi, le grand danger, surtout, c'est que, en fait, tu peux faire... tu peux créer une fausse information, une fausse photo, d'une manière parfaite. Nous, on arrive à reconnaître tout de suite, mais comme elles vont s'améliorer de plus en plus, et que les gens ont une naïveté quand même, ne savent pas vraiment distinguer, critiquer, ou ils sont capables de croire à des... Si on diffuse une fausse information, c'est Orwell. Hein,
C'est ça. Alors, on sort la question du débat qui concerne l'art, puisque l'art fait ce qu'il veut.
Exactement.
Mais c'est vrai que c'est un problème.
En fait, l'art, c'est quoi aussi c'est aussi parler de... C'est l'information. C'est toujours la
tout
même
fait.
Chose. C'est l'information. On peut se trouver avec, très facilement, de lancer des fausses informations. Et ça... C'est super dangereux. Comment on peut récupérer les choses ?
L'autre truc qui me fait aussi pas mal réagir, c'est on ne demande pas, par exemple, quand tu étais menuisier au 19e siècle, ton rabot ne t'expliquait pas ce que tu devais pouvoir faire ou pas.
Exact.
Tu achetais un outil, un marteau, etc. Tu faisais ce que tu voulais avec ton marteau. Là, maintenant, on a des outils comme Photoshop qui, si vous commencez à essayer de reproduire un billet de banque ou... de reproduire une scène sexuelle, vous envoie un message pour vous dire non, vous pouvez pas. Oh. Hein, c'est-à-dire, on a des outils qui commencent à nous expliquer ce qu'on a le droit de faire ou pas faire.
On a le droit, qui sait.
C'est quelque chose, je crois que ça va être un grand, grand combat pour empêcher les majeures compagnies de commencer à nous dire ce qu'on peut faire avec leurs outils. Ils ne peuvent pas, c'est inconcevable. Pour moi, c'est le truc le plus incroyable que j'ai vu émerger. Là, c'est Étienne Mineur, qui est un grand, grand artiste numérique, qui récemment était en train de tester la bêta de Photoshop, qui s'est mis à fabriquer un petit personnage, qui a fabriqué en 3D un personnage qui est très caricatural, fait de volumes simples, de cubes, voilà. Et en voulant retoucher l'aisselle de ces assemblages de polygones qui sont caricaturales, Photoshop a détecté que c'était un sexe féminin, enfin a inventé un sexe féminin là où il n'y en avait pas et a bloqué l'application. On en est là quand même.
Hein. Oui, parce que comme tout est en ligne, en plus ça ne nous appartient plus.
Voilà.
Très bien, on va s'arrêter sur ces pistes de réflexion, pas toujours réjouissantes d'ailleurs, mais on va vous remercier beaucoup et puis on vous dit à bientôt.
C'était
bientôt.
Un plaisir.
En tout cas, merci de nous avoir reçus, Radio Évasion.